Vous êtes sur RTL. Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
18h40, on va donc défaire le monde maintenant dans RTL Soir. Le trio en studio, Cyprien Sini, Isabelle Choquet, Laurent Tessier. L'info autrement, vue sous un autre angle, jusqu'à 19h. Voici le menu, Cyprien.
Ce soir, on défait la défense anti-aérienne ukrainienne. Ces missiles qui partent du sol pour stopper les bombardements russes en plein ciel sont-ils téléguidés ? Comment atteignent-ils leur cible ? On va tout vous expliquer sur cette bataille des airs. Au menu également, tout fout le camp. La France 18e du championnat du monde de dégustation de vin à l'aveugle. Mais oui, messieurs, dames, une île habitée, inhabitée, reliée à la fibre. Et 80 000 euros pour une vignette Panini de Ronaldo. On défait le monde, la quotidienne. C'est parti.
On défait le monde dans RTL Soir.
Et voici le son du jour.
83 missiles tirés depuis la Russie. Près de 50 ont tout de même été interceptés par la défense antiaérienne ukrainienne.
C'était hier dans RTL Soir avec Émilie Beaujard. On a donc voulu en savoir plus sur ces systèmes de défense anti-aérien ukrainiens.
Comment ça marche? Comment on intercepte des missiles? Et pourquoi on parle parfois de dôme de fer ou de bouclier aérien?
Pour vous dévoiler les coulisses de cette véritable bataille des airs, on a fait appel à l'amiral Coldefy. C'est l'ancien inspecteur général des armées françaises. Alors, vous avez peut-être vu cette image d'un soldat ukrainien en train de tirer en l'air avec un canon et d'intercepter un missile. Bon, ça, c'est le système le plus basique qui existe, c'est le solaire courte portée. C'est ce qu'on a fourni aux Ukrainiens au début de la guerre. Et voilà comment ça marche.
C'est, j'allais dire, presque de la défense à vue. Il a un certain nombre de gens qui surveillent le ciel autour. Alors, puis, il a peut-être des collègues qui étaient postés à un kilomètre ou un truc comme ça, qui ont dit « Regarde dans cette direction rapidement ». Il faut diriger vers le missile et dès que l'autodirecteur du missile, autodirecteur et infrarouge, a repéré la chaleur, c'est 4 microns en termes de longueur d'onde. Il se dirige automatiquement vers la source de chaleur jusqu'à la percuter. Il n'y a pas besoin de radar pour les guider au départ. Tout ça, c'est portable ou épaulable même. Sur des cibles faciles, ils atteignent presque à tous les coups leur cible.
Donc là, on intercepte à la main, en quelque sorte, un missile adverse. C'est ce qu'on a vu hier. Il parle de cibles faciles, l'amiral, c'est-à-dire...
C'est que cette défense archaïque, comme vous venez de le dire, elle ne marche que sur certaines attaques.
Pour intercepter autant de missiles, ça veut dire que ces missiles étaient plutôt dans des phases de vol subsoniques, c'est-à-dire inférieures à la vitesse du son, avec des profils de vol plutôt basiques, et non pas dans une phase supersonique ou hypersonique, comme ils se vantent de savoir le faire. Pour le cas, ça devient bien sûr beaucoup plus difficile.
Donc c'est pour ça que le président Zelensky, aujourd'hui, a demandé au G7 de l'aider à créer un bouclier aérien.
Exactement.
C'est quoi concrètement un bouclier aérien?
Alors là, c'est beaucoup plus moderne et beaucoup plus technologique. C'est ce qu'on a en France, par exemple. Il y a des radars partout, sur Terre, mais aussi à l'intérieur des missiles de protection.
On a des radars un peu partout, avec un centre de commandement unique. Ensuite, une fois qu'on a détecté quelque chose, on donne au calculateur du missile les éléments de position et de vitesse du missile assaillant. Ce missile va recevoir les coordonnées de la cible que l'on poursuit. Et une fois que notre missile est en l'air, il se dirige naturellement dans une trajectoire d'interception du missile assaillant. Et depuis longtemps, on a des missiles autoguidés, c'est-à-dire qui détectent la cible et qui l'entretiennent. Donc le taux de réussite, il est... Avec les systèmes occidentaux, il est plutôt bon, il est plutôt de 90% à peu près.
En gros, tout ce qui se rapproche de votre espace aérien est repéré immédiatement, analysé et intercepté de façon quasi automatique. Ça nécessite un équipement de très haute technologie en grand nombre et donc ça coûte très cher.
D'où la requête une nouvelle fois du président ukrainien devant le G7 cet après-midi.
RTL, sous les radars.
Allez, on va défaire maintenant l'info passée inaperçue aujourd'hui.
Alors, la semaine dernière, RTL a consacré, vous savez, sa série de la semaine 7 jours, 7 reportages à ces Français qui vivent en zone blanche, dans ces coins du territoire privé de réseau. Eh bien, pendant ce temps-là, Laurent, on découvre qu'une île quasi déserte vient carrément d'être reliée à la fibre.
Oui, bienvenue sur l'île Tatiou, dans la Manche, au nord-est du Cotentin. On est à 1,5 km de la côte, 29 hectares, aucun habitant, mais la fibre optique. L'Internet très haut débit vient d'être installé pour se connecter hyper rapidement. Oui, pas d'habitants, mais la fibre. Alors cela paraît fou quand on sait que près de 650 000 personnes vivent dans des zones blanches sans réseau. Mais c'est bien la réalité. Les grands moyens ont été sortis sur l'île Tatiou, une tranchée été creusé, un chantier programmé en fonction des marées, 50 personnes ont été mobilisées, coût de l'opération 415 000 euros.
Mais alors, Pourquoi faire ? Oui, à quoi ça sert ? Il n'y a pas d'habitants.
Eh bien, la fibre profitera aux touristes qui passent sur l'île Tatiou pour aller notamment au musée, au restaurant présent sur place. Le conseil départemental de la Manche avance que 10 000 élèves sont accueillis chaque saison, que la fibre est utile également pour la sécurité de l'île afin de contacter les secours ou surveiller encore les collections du musée. Mais une île accessible par bateau jusqu'au 13 novembre. Ensuite, c'est la fermeture hivernale. Il faudra attendre le mois d'avril pour reprendre les traversées. Bref, ben, c'est pas la fibre la plus utile du monde.
Non, mais ça sert pour les touristes ultra connectés. Voilà. Comme Cyprien qui n'arrive pas à décrocher de son téléphone.
Oui, mais je suis jamais allé sur l'île Tatiou.
Ben voilà, vous avez passé votre
vacances. On peut y aller maintenant.
Allez, petite pause et on défait le monde continue dans RTL Soir. La France, pays du vin. À la peine. Au championnat du monde de dégustation, nous avons quelque peu déchanté. On vous explique tout juste après ça.
Julien Cellier, Cyprien Cini, on défait le monde. Julien Cellier et Cyprien Cini ont défait le monde dans RTL Soir.
18h48, vous écoutez toujours RTL Soir et on défait toujours le monde. Alors, place au verdict winner ou loser du jour. Eh bien, ce soir, Isabelle a choisi un loser qu'on n'attendait pas forcément, pour tout vous dire.
Ah bah oui, figurez-vous qu'au championnat du monde de dégustation de vin, qui ont eu lieu samedi en Champagne, la France, avec ses 76 000 exploitations viticoles, eh bien, la France, c'est très mal classé, Isabelle.
Ah oui, tout fout le camp, rien ne va plus. 31 équipes et nous arrivons 18e, voilà. Même pas dans la première moitié de tableau. Loin, très loin des vainqueurs, l'équipe du Luxembourg.
Mais c'est la honte, frère.
Bah oui, c'est pas glorieux, c'est vrai. Alors, les épreuves, c'est vrai, ne sont pas très très faciles.
Chaque équipe déguste 6 vins, 3 blancs et 3 rouges. Ensuite, il y a correction des copies. Puis on se retrouve dans la salle et toutes les équipes dégustent les 6 derniers vins.
12 vins à déguster à l'aveugle, mais des vins du monde entier. Il faut trouver le cépage, le pays, l'appellation, le millésime si possible. Et voyez-vous, être le pays du vin pour ce genre de concours, eh bien ça n'a pas que des avantages.
L'inconvénient, c'est qu'on n'est pas trop porté, enfin moins porté que peut-être d'autres pays où ils ont l'habitude de goûter des vins étrangers.
Ah voilà, on boit local et on boit local et voilà le résultat. 18e dans un concours organisé en Champagne par la revue du vin de France.
De la France.
Ouais. Bon, vu qu'on est 18e, forcément, on est surpassé par de petites nations viticoles, la Biélorussie, Taïwan, la Finlande. Ah bon ? Et nous sommes talonnés par le Danemark et aussi par un outsider incroyable.
Marvin, Tinashe, Van Pardon, Team Zimbabwe.
Team Zimbabwe, l'équipe du Zimbabwe, ouais. C'est un peu les Rasta Rockets du Fuchsen. Et d'ailleurs, leur histoire aussi est devenue un film, un documentaire qui a l'air assez chouette.
Ah, c'est
tout à fait, un documentaire sorti l'an dernier. Bref, nous les Frenchies, on est dans les choux et on tombe de haut parce que l'an dernier, on était 6e et en 2020... on était carrément champion du monde pour la 3e fois et c'est pas un hasard.
On avait des résultats moyens, et on s'est dit c'est pas possible, il y a un secret, on a demandé un peu à certains, on s'est aperçu qu'ils s'entraînaient beaucoup, donc on a décidé de s'entraîner plus.
Mais c'est bien de s'entraîner
pour le voir. Il faut s'entraîner à la dégustation, on sait faire ça en France, on a même des chants pour s'encourager. Ah, la France, le pays des chansons à boire, le pays où la cantine a fait sa révolution en 1956.
Un menu scientifiquement équilibré tient compte en ce qui concerne le choix des boissons de la dernière circulaire du ministre de l'Éducation nationale qui vient d'interdire dans toutes les cantines scolaires toute boisson alcoolisée pour les moins de 14 ans.
Ah bah oui.
Voilà, vous noterez que du plus de 14 ans, vous pouvez continuer à s'arsouiller dans les verdures Alex. Hein. Il a fallu attendre 1981 pour que le vin soit interdit aussi dans les lycées. Même après, certains plaidaient pour une éducation au vin à l'école ici en 84.
C'est mieux que les enfants connaissent le vin avant de sortir, c'est-à-dire avant 16 ans, qu'après, où ils vont découvrir la bière et les alcools forts. Et il faut leur apprendre à déguster.
Et oui, et encore récemment, en 2019, le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, nous expliquait droit dans les yeux.
L'addiction à l'alcool est dramatique. Mais je n'ai jamais vu un jeune qui sort de boîte de nuit et qui est sous parce qu'il a bu du Côte-du-Rhône, du Gros Hermitage. Jamais. Je ne crois pas que le vin soit un alcool comme les autres.
Le vin n'est pas un alcool comme les autres. Ça, c'était pas un dérapage. Hein. Il avait expliqué ensuite, ouais, bien sûr, vin ou whisky, la molécule d'alcool est la même.
Sauf que moi, je ne bois pas des molécules, je bois des verres.
Bref, c'est pareil, mais c'est pas pareil. Le vin, chez nous, c'est de l'alcool, mais pas que. C'est un patrimoine, une fierté, un lobby aussi. Hein. Nous sommes toujours le premier exportateur du monde en valeur. Mais voilà, niveau dégustation, on perd du terrain. Alors, comme on dit, on essaiera de faire mieux la prochaine fois. Et d'ici là...
Il faut s'entraîner, il faut faire cet effort. Et il y a plein de choses à découvrir. On n'a jamais fini d'apprendre.
Ah, quel sacerdoce, hein, ces champions du monde.
Ouais, si on pouvait juste terminer devant Taïwan et la Finlande l'année prochaine, ce serait pas mal.
Très bien,
hein, ce serait pas
la
mal.
Biélorussie aussi. Boulot.
des infos pour briller au dîner.
Allez, le match Isabelle versus Laurent, qui détient la meilleure info pour vous permettre tout à l'heure de briller autour de la table du dîner.
Malgré sa belle victoire hier, Laurent est toujours mené 15-11 par Isabelle. Et ce soir, il a choisi de briller avec quelque chose qu'on ne peut pas faire en ce moment, faute d'essence. Hein.
Oui, mon info pour briller porte une expression que vous avez tous sortie au moins une fois sur la route.
C'est moi.
Bah oui, appuie sur le champignon, surtout quand la pompe de la station essence est enfin libre et que la voiture devant vous n'avance pas après deux heures d'attente. Oui, appuie sur le champignon. Mais que vient faire le champignon dans cette histoire ?
Alors, que vient faire le champignon dans
cette histoire ? Vous avez raison, bonne question. En fait, dans les années 20, les pédales n'étaient pas les plaques rectangulaires d'aujourd'hui. C'était des tiges métalliques surmontées d'une demi-boule en caoutchouc ou en métal. Et cette forme rappelait celle d'un champignon qui émergeait du sol. Il fallait donc appuyer dessus pour gagner en vitesse. Depuis, les pédales ont changé, mais l'expression appuyer sur le champignon est restée.
Ça devait pas être très pratique d'appuyer sur le champignon, effectivement. Allez, place à Isabelle.
C'est avec Édith Piaf qu'Isabelle a choisi de briller ce soir.
Et mon info, c'est qu'Édith Piaf est morte la veille de sa mort. Je m'explique. Le 11 octobre 1963, l'agence France Presse publie une dépêche. Édith Piaf est morte dans son lit boulevard Lannes, où elle était arrivée hier après-midi. Alors, tous les médias reprennent cette information donnée par le médecin d'Édith Piaf. Il a rédigé un certificat. Heure du décès, 7h du matin. Mais c'est un gros mensonge. En fait, Édith Piaf est morte la veille, en début d'après-midi, dans sa maison à Grasse. Seulement, elle avait toujours dit qu'elle voulait mourir à Paris. Alors, son tout jeune mari a décidé de faire quelque chose de totalement illégal. Il a déplacé le corps.
Non.
Il a été aidé par la mère supérieure de la clinique de Cannes, qui lui a prêté une ambulance et un chauffeur de confiance. On a même installé une fausse perfusion sur le corps de Piaf pour faire illusion, si je vous jure. L'ambulance a roulé toute la nuit un voyage de 800 km pour que la môme descende officiellement à Paname, et officiellement le même jour que Jean Cocteau.
Incroyable,
c'est dingue.
Ah, c'est fou ça.
Ah, ouais.
Alors,
c'est...
Fort, hein.
On lui donne 2 points du coup.
Presque. Franchement, mais je pensais qu'avec le champignon, Laurent allait marquer 1 point, mais.
Oui.
Ah là, c'est complètement dingue. Bon, le point pour Isabelle soir. Allez, RTL Soir continue dans quelques secondes.
Faudra que j'appuie sur le champignon pour
dans la victoire. Dans 5 minutes, ce sera votre journal. Crise du carburant et envie d'ailleurs de Mbappé au final. Juste avant, on va défaire votre monde avec un métier assez original. Acheteur-vendeur de vignettes Panini. A tout de suite sur RTL.
On défait le monde.
Julien Cellier, Cyprien Signy. Julien Cellier et Cyprien Signy ont défait le monde dans RTL Soir.
Bonne fin de journée, juste avant le journal de 19h. On continue de défaire votre monde et vos idées folles.
Tenez-vous bien tout plaqué pour se lancer dans la collection de vignettes de footballeurs.
Oui, c'est ce qu'a décidé de faire Christophe. Bonsoir Christophe.
Bonsoir.
Alors il fallait quand même oser, mais il y a vraiment tout un business autour de ces vignettes.
Oui, tout à fait. Oui, un véritable business dans lequel je me suis lancé il y a maintenant plus d'un an. Voilà, j'ai tout plaqué pour ça parce que je faisais un travail qui était un peu ennuyeux et j'avais envie d'un peu de renouveau. J'ai attendu 40 ans pour me remettre dans les Panini. J'en ai fait un peu quand j'étais jeune. Mes parents ont tout jeté, donc du coup, je me suis dit comment faire pour les ravoir. Mais je suis allé un peu sur les plateformes de mise en vente et j'en ai racheté. Et du coup, c'est parti de ça.
Et c'est comme ça que vous êtes aperçu qu'il y avait un business de la carte de foot vintage.
Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, quand on a 40 ans et qu'on a des vignettes en double, aller dans les cours de récré, c'est un peu compliqué. Donc de ce fait, j'ai préféré aller sur des plateformes de mise en ligne, et puis je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait pas mal de monde sur le marché, et puis voilà, c'est parti comme ça, et mon stock a augmenté.
Et le stock, alors aujourd'hui, vous avez combien de vignettes Panini ?
On va dire que ça avoisine à peu près les 1 million de vignettes.
1 million ?
C'est-à-dire que la maison est devenue quand même une véritable boutique, au grand détriment de la famille, mais bon, c'est pas grave, et tout le monde l'accepte, et puis bon, ça fait partie du jeu, quoi.
Et alors, pour qu'on se rende bien compte, un exemple de carte que vous avez acheté pas cher, que vous avez revendu super cher, par exemple.
Le plus bel exemple, c'est une carte que j'ai achetée en brocante, enfin, c'était parmi un lot, et dedans, il y avait la première apparition de Michel Platini. C'était pas Panini à l'époque, c'était l'ancêtre de Panini en France, âge éducatif. Et cette vignette âge éducatif de Michel Platini, au centre de formation de Nancy, s'est vendue 500 euros.
Et vous l'aviez acheté combien ?
Oh là, au moins 10 centimes.
Ah ouais. Incroyable. Ah ouais, c'est intéressant comme business.
Quelles sont les cartes, les albums les plus demandés ?
Le premier album qui a édité Panini en Coupe du Monde, c'est Mexico 70. Ouais. Celui-ci, c'est le Graal pour le collectionneur. C'est un album qui avoisine à peu près les 3000 euros s'il n'est pas collé. Sinon, c'est souvent les cartes ou les stickers des joueurs emblématiques, et surtout quand c'est leur première apparition. Cristiano Ronaldo ou la vignette au Sporting du Portugal, sa première apparition, je crois que c'est en 2002. Elle a été vendue aux enchères à peu près à 80 000 euros.
Et oui. Cyprien, il veut une Basile Boli 1993, ça vaut combien ça?
Eh si, je l'avais, mais je l'ai vendu.
Dommage.
Mais bon, si jamais c'est pour Cyprien, je prends en sorte d'essayer de lui retrouver une autre.
C'est très sympa, on garde votre contact.
Formidable. 1 million de vignettes Panini quand même. Merci Christophe, bravo, chapeau.
Il n'y a pas de quoi.
Bonne soirée Christophe. Merci à vous aussi les amis dans Défait le Monde. On se retrouve demain à 18h40 dans RT.